Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal de Chrétienté dirigé par Daniel Amiche, diffusé en direct jeudi 24 juillet 2014 de 18h à 21h. Il est diffusé en différé vendredi 25 dans la nuit de 2h à 5h, dans la matinée de 7h30 à 10h30, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce libre journal est réalisé par Jocelyn. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82 et par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr.
Auditeurs, heureux de vous retrouver en direct aujourd'hui, jeudi 24 juillet 2014, pour cette nouvelle édition du Libre Journal de Chrétienté. Alors pour l'instant, je suis seul dans le studio, avec mon ange gardien évidemment, mais enfin bon, mes invités vont arriver, sont un petit peu en retard, alors je pense que nous allons les avoir. Je voulais faire une petite salutation à celle qui m'a assisté, moi et Guillaume de Tulois, pendant tellement de temps, c'est la chère Adélaïde qui est notre assistante dans cette émission et qu'on ne craint pas peut-être voir avant un bout de temps, puisque là, nous sommes en vacances, ce qui est une chose qui est tout à fait naturelle, mais surtout elle attend un heureux événement. Et donc, il va la priver du studio de Radio Courtoisie pour les mois qui viennent, jusqu'à temps que le bébé soit peut-être adopté par les parents, les grands-parents, enfin, comme c'est l'habitude. Enfin, en tout cas, je sais pas, elle n'est certainement pas à l'écoute de cette émission, mais peut-être écoutera-t-elle la rediffusion sur son ordinateur. Et je tenais bien sûr à lui adresser toutes mes amitiés et puis surtout toute la joie que me procure cette magnifique nouvelle de cette petite naissance qui va se passer vers le mois de novembre, hein, si mon compte est bon. Alors, chers amis auditeurs, deux nouvelles pour commencer, une mauvaise et une bonne. La mauvaise nouvelle, c'est que vous allez devoir me supporter aujourd'hui pendant mes invités qui arrivent, je leur demande de s'asseoir en face de moi. Bonjour, bonsoir, bonsoir à tous, asseyez-vous. Voilà, vous avez de l'eau, enfin tout ce qu'il faut pour moi, parce qu'il fait chaud. Et vous venez de chaud. Mais là, nous sommes dans un studio qui est parfaitement climatisé, donc on va avoir un peu de fraîcheur, ça va pas nous faire de mal. C'est en sortant tout à l'heure qu'on va avoir du mal. Donc je disais deux nouvelles pour aujourd'hui, une bonne et une mauvaise. Je vais commencer par la mauvaise. La mauvaise, c'est que les auditeurs vont devoir me supporter pendant 3 heures. Ordinairement, c'était 1h30 et la première partie était assurée par notre ami Guillaume de Tulois et la seconde partie par moi-même. Mais là, évidemment, comme Guillaume de Tulois, mon alter ego dans cette émission, est père de famille et a de nombreux petits marmousets, ils sont partis en vacances. C'était le moment de partir en vacances. Donc, j'aurai donc le plaisir de vous avoir 3 heures. Je vous aurai plaisir de vous avoir 3 heures aujourd'hui en direct. Et puis notre ami Guillaume de Toulouse fera l'émission complète du jeudi 21 août. Il fera les 3 heures. Et moi, je me reposerai, je l'écouterai, ce qui me reposera beaucoup. Ça, c'était la mauvaise nouvelle pour les auditeurs. La bonne nouvelle, c'est quand même ce qui nous est arrivé au cours de la matinée. Ça a été la libération de cette jeune catholique soudanaise qui s'appelle Myriam Yahya Ibrahim Sohag. Qui avait été, comme vous l'avez sans doute appris, par de nombreuses émissions sur Radio Courtoisie, condamné tout simplement à mort après avoir été flagellé, condamné à mort pour crime d'apostasie alors qu'elle n'a jamais été musulmane. Et elle était en plus condamnée à 100 coups de fouet pour adultère au motif qu'elle avait épousé un autre chrétien, catholique lui aussi d'ailleurs, et que le mariage n'est pas reconnu. Donc comme c'est pas reconnu, ça veut dire qu'elle était adultère. Et comme on prétendait qu'elle était musulmane, alors elle avait apostasié sa religion. Et donc, elle était bonne à être pendue. Je ne sais pas si vous imaginez, enfin, c'est une chose absolument invraisemblable. Il y a eu des revirements insensés pendant, ça fait 1 an et demi que cette affaire dure, parce que 2 ans qu'elle dure, avec des espérances détrompées, déçues, de nouvelles espérances, de nouveau détrompées, déçues. Une jeune maman de 27 ans, elle a 27 ans, Myriam. Elle était déjà la maman d'un petit bonhomme, un petit garçon qui avait 20, qui doit avoir presque 2 ans maintenant, elle doit avoir 22, 23 mois. Et elle a accouché en prison, figurez-vous, d'une petite fille. Bon, c'est quand même dans des conditions que je préfère pas dire aux auditeurs de Radio Courtoisie, parce que c'est vraiment, c'est absolument scandaleux. Ça a fait une énorme, un énorme tintouin au plan international, vraiment la révolte du sens commun, la révolte des chancelleries a été très forte, les pressions étaient considérables évidemment sur le gouvernement de Khartoum, qui est un gouvernement islamiste, comme chacun le sait. Et là, nous avons appris aujourd'hui qu'après tellement de tergiversations, de procès lancés, abandonnés, de procès annulés, d'un autre procès qui se profilait, fait par une partie soi-disant de sa famille, en fait sans doute une partie de la famille de son père, de son géniteur en tout cas, puisque ce géniteur l'a abandonné quand il devait avoir 4-5 ans ou 6 ans, et s'est remarié, a refait, parce que là-bas c'est possible, on peut se marier avec deux femmes, c'est pas interdit. Mais par contre, se marier avec un chrétien, ça c'est interdit, ça on peut pas. Quand on est musulman, on peut pas. Or, elle n'était pas musulmane, la chère Myriam. Enfin, trêve de billevesée, elle a pris un avion ce matin, depuis Khartoum, la capitale de la République du Soudan, un avion du gouvernement italien. Et elle est arrivée à Rome, tranquillement, avec son époux, qui s'appelle Daniel Wani, et leurs deux petits-enfants. Tout le monde était très très heureux. Et dans l'avion, il y avait, le vice-ministre des Affaires étrangères, c'est ça, un homme tout à fait sympathique. Bon, elle était cueillie sur le tarmac de l'aéroport par le Premier ministre, par l'épouse du Premier ministre, par le ministre des Affaires étrangères, par l'épouse, enfin c'était très bien. Et puis elle a vu le pape. Voilà, ils sont allés voir tout de suite le pape. Sont allés remercier le couple de Myriam et de Daniel, sont allés remercier le pape pour, évidemment, tout le travail, d'abord les prières qui sont très importantes, et puis tout le travail qui avait été fait par la diplomatie du Saint-Siège. En gros, on peut estimer aujourd'hui que la libération est due, pas entièrement, mais essentiellement, à la diplomatie du Saint-Siège et la diplomatie italienne. Ils ont dû avoir des mots, des pressions qui ont permis de faire fléchir le régime islamique de Khartoum. Alors ils sont allés remercier le pape et le pape les a remerciés. Le pape les a remerciés d'être restés fermes dans leur foi, malgré les menaces terribles qui pesaient sur eux, et notamment sur Myriam. La pendaison, quand même, c'est sans coup de fouet. Enfin, sans coup de fouet, une femme. Enfin, écoutez, franchement, il faut vraiment être tombé sur la tête pour voir des choses comme ça. C'est abominable. Eh bien voilà, c'était la bonne nouvelle du jour. Cette jeune femme est aujourd'hui libre. Alors, ils sont en transit à Rome, puisque la destination finale de la famille sera les États-Unis d'Amérique, puisque Daniel Wani travaille là-bas. Il a aussi la nationalité américaine, la nationalité du Sud-Soudan et la nationalité américaine. Donc il est dans un état de l'Est des États-Unis où il travaille. Et voilà, la famille va enfin pouvoir vivre une vie normale, une vie décente, une vie comme laquelle chacun a droit. Bon. Et j'en suis personnellement très très content et on a vraiment beaucoup prié pour... pour cette famille, beaucoup prié pour Myriam, il y a eu beaucoup de messes qui ont été célébrées, il y a eu vraiment un grand, grand mouvement de solidarité chrétienne, et même parfois pas chrétienne, aussi des gens de bonne volonté, des personnes qui ont aussi manifesté, on a tous manifesté devant l'ambassade du Soudan, en France, à Londres, à Washington, enfin partout, on a fait des manifestations, on a fait ce qu'il fallait faire, et puis voilà, et bien aujourd'hui la bonne nouvelle, voilà. Alors Deo Gracias, nous sommes très contents de cette... De cette issue très positive de quelque chose qui nous apparaissait à la fois une tragédie injuste et surtout une situation kafkaïenne, hein, comme on parle des romans de Kafka, où c'est tellement compliqué que ça... C'est-à-dire qu'il y a une porte qui s'ouvre, l'autre qui se ferme. Alors vous rentrez, celle s'ouvre, puis elle se ferme derrière, puis une autre. Et puis vous êtes dans un couloir, il n'y a que des portes qui s'ouvrent et qui se ferment. Mais comment on peut sortir de cela? C'est pas possible. Moi, je pensais que je ne voyais pas comment on pouvait sortir de ça. Mais le bon Dieu, lui... il sait comment faire avec toutes ces choses. Et c'est lui qui a en fin de compte le dernier mot. Eh bien, rendons-lui grâce pour cette nouvelle bonté qu'il nous fait. Et il va encore devoir nous faire, le bon Dieu, beaucoup, beaucoup de bonté. Parce qu'il n'y a pas que la situation des chrétiens soudanais qui est difficile. Il y a aussi, on peut dire qu'aujourd'hui, quasiment la situation des chrétiens est mauvaise dans tous les pays du monde. Il n'y a pas encore très beaucoup de pays qui échappent. La christianophobie, comme je le dis souvent, elle est partout. Elle est malheureusement universelle. Elle peut être froide, elle peut être tiède, elle peut être chaude, elle peut être brûlante. Mais enfin, personne n'y échappe. Alors, je salue l'arrivée dans le studio de mes deux premiers invités. La personne va commencer par les dames, c'est plus correct quand même. Hein. Alors, Madeleine Yalap, hein, oui, c'est ça, Madeleine. Voilà, vous parlez bien près, très très près du micro les uns et les autres, comme si vous vouliez l'embrasser, mais ne l'embrassez pas quand même, parce qu'on ne sait pas qui c'est qui était avant vous. Donc, Madeleine Yalap, qui est responsable, une des co-responsables du comité de soutien aux chrétiens d'Irak, c'est ça. Et puis, Anthony Yalap, même patronyme, mais on expliquera tout à l'heure, un tout petit peu plus tard, pourquoi vous avez le même patronyme, parce que c'est intéressant aussi, qui était un des coordinateurs de la journée d'action pour les chrétiens d'Irak, les journées d'action, puisqu'il y en a une, et puis je pense qu'il y en a eu d'autres. Mais avant que nous parlions donc de la situation des chrétiens en Irak, et la question qu'on se pose tous, c'est est-ce qu'ils vont disparaître? C'est une grave question. Ceux qui sont devant moi, non, ils sont là devant moi, et puis alors je les salue, je suis content qu'ils soient là, mais bon, là-bas, en Irak, quand même, est-ce qu'ils vont redemeurer en Irak? C'est très compliqué. Nous allons avoir par téléphone quelqu'un qui s'intéresse aussi beaucoup, beaucoup à la question de Meriam, et beaucoup, beaucoup aussi à la question des chrétiens d'Irak, et puis aussi de Syrie, et puis aussi du Pakistan. C'est notre ami Vivien Hoche. Vivien Hoche, est-ce que vous êtes au téléphone?
Oui, bonsoir aux auditeurs, bonsoir Daniel, aux invités, bonsoir à tout le monde. Nous nous réjouissons ici. Alors, on est à l'université d'été du Centre Charlier.
Exactement.
Mais aussi de la Griffe et de Chrétienté Solidarité.
Parfait.
On se réjouit de cette nouvelle, ce matin, de la libération de Meriam, quand même. On avait organisé une manifestation devant l'ambassade du Soudan.
Très belle manifestation.
Qui avait réuni beaucoup de monde. C'était une cause importante. On a fait une de reconquête aussi sur Meriam. L'Observatoire de la christianophobie a suivi l'affaire de très très près, notamment sur le blog de vous, Daniel. Et puis donc on se réjouit, ça rajoute encore un peu plus de soleil dans nos cœurs.
Voilà. Eh ben, on en est content, mais je pense que vous ne manquez pas de soleil, parce que vous êtes du côté de Toulon, c'est ça?
Oui, on est du côté de Toulon, effectivement.
Voilà,
on travaille justement à tout ça, on suit aussi la situation des chrétiens d'Irak en ce moment, on est assez inquiets.
Oui.
On prie pour eux et on envisage aussi des formes d'action pour la rentrée.
Eh ben, il va falloir que tout le monde s'unisse parce que ce qui se passe est absolument insupportable. C'est insupportable. Alors, mon cher Vivien, donc je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef de la page Facebook de l'Observatoire de la christianophobie. Vous êtes aussi le rédacteur en chef de l'Observatoire de la christianophobie papier, parce qu'il existe aussi une version papier, nous sommes des multimédias, nous autres, aussi, etc. Bon, qui est un bulletin de 4 pages, c'est ça, mais qui paraît toutes les semaines. C'est bien ça?
Toutes les semaines, bon. Mais pour suivre au mieux l'actualité et puis donner la parole à tous les responsables.
C'est très bien. Alors, c'est vraiment le contenu rédactionnel est différent, évidemment, de ce qu'on peut trouver sur le blog de l'Observatoire de la christianophobie. Et là, pour l'instant, je crois que la publication est suspendue pendant 15 jours, c'est ça, non?
Oui, la publication est suspendue pendant 2 semaines. Oui.
Voilà, parce que vous êtes obligé, vous avez d'autres choses à faire, puis il faut bien prendre un petit peu de repos. Il n'y a que moi qui ne me suspends pas, quoi, en fait.
Bientôt pour vous, j'espère, Daniel.
Qui suis au four et au moulin, et avec la chaleur qu'il y a à Paris, je suis plutôt au four qu'au moulin actuellement. Voilà, mais je peux vous dire, il fait très très chaud. Sauf dans le studio de Radio Courtoisie, parce que nous avons la climatisation. Donc nous sommes bien au frais. Alors, mon cher Vivien Hoche, comme d'habitude, vous allez faire la chronique dont vous réserviez généralement, habituellement désormais, la primeur à monsieur Guillaume de Thulois, mais comme il n'est pas là, il va falloir que vous la fassiez en ma présence, et surtout pour les auditeurs de Radio Courtoisie.
Oui, et j'en ai une qui concerne justement la manière dont la France réagit un peu à la situation des chrétiens, que ce soit d'ailleurs sur le sol français, mais ou même sur le sol irakien, ou les chrétiens d'Orient. On a quand même, j'espère que les auditeurs s'en rendent compte, quand même un sacré ministre de l'Intérieur. Enfin, un sacré, entre guillemets, hein. Vraiment entre guillemets. Alors ce ministre de l'Intérieur, dont je rappelle le nom parce qu'il est tellement invisible que on va peut-être rappeler qu'il s'appelle Bernard Cazeneuve. Il est tout à fait invisible. Il y a beaucoup d'événements qui se passent ces derniers temps, notamment sur le sol français, les manifestations qui dégénèrent, les drapeaux du djihad dans les rues de Paris, etc., etc. Je passe.
Et de Lyon.
Et à Lyon, à Sarcelles, etc. Bon, ce bonhomme est plus ou moins invisible. On l'entend pas beaucoup. Et je vais rappeler juste quelques tweets qu'il a fait, parce que les tweets, c'est intéressant, notamment les personnalités politiques, parce que elles dévoilent souvent ce qu'ils n'osent dire dans des contextes plus officiels. Les tweets, c'est plus direct. On voit pas tout de suite l'influence que ça peut avoir, mais on sent tout de suite ce qu'ils veulent dire. Alors lorsque, par exemple, il a commencé d'ailleurs son pontificat, non, c'est son mandat de ministre, Les musulmans, alors je le cite, les musulmans font partie intégrante du roman national français. Point. Voilà. Il a commencé comme ça, donc les musulmans font partie intégrante du roman national français. Effectivement, du moins vu ce qu'on voit et ce qu'on a vu ces derniers temps dans les rues de Paris, effectivement, les musulmans font partie du roman national. Mais là, le roman commence à devenir un peu une tragédie en ce moment. Tragédie qui va se redoubler vis-à-vis de, justement du comportement des Français vis-à-vis des chrétiens qui sont réellement persécutés, notamment en Irak en ce moment. Alors, c'est encore ce personnage, je continue sur ce qu'il a dit. Rappelez-vous, Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, qui rappelle que le risque majeur en prison, aujourd'hui, dans les prisons françaises, le risque majeur, c'est l'évangélisation des jeunes. Parce qu'ils risquent de devenir des djihadistes. Vous comprenez ? Je cite « évangélisation ». Donc, comprenez, les jeunes qui se font prendre en prison, ils se retrouvent avec une Bible, ils commencent à lire l'Évangile et ils partent au djihad. Voilà. C'est le vrai souci. Donc ça, c'est encore signé de notre ministre incroyable. Mais je voulais surtout m'apesantir, parce que ça fait lien avec les chrétiens d'Orient et avec la situation générale. C'est celui qu'il a écrit hier.
Le 22, hier. Avant-hier. C'était le 22, ouais, le tweet, comme on dit, le gazouillis, est du 22 juillet.
Celui-là, il est gratiné aussi. Hein. L'Observatoire, on a fait un post.
Deux postes.
Je vais vous le rappeler.
Deux postes.
Deux, ça le mérite, oui, mais on pourrait même écrire un roman là-dessus. Alors, enfin, non, c'est même triste. Hein. Là, on rigole un peu, mais c'est vraiment triste de lire ce genre de choses de la part d'un ministre de la République. Je cite, « Quand on est républicain », ça commence bien déjà, hein, Daniel. Vous voyez, bon, enfin, alors... Je cite, « Quand on est républicain, on ne distingue pas entre les enfants de Gaza, les chiites de Mossoul ou les jeunes syriens. Et bah rien. » Voilà. « Quand on est républicain, on ne distingue pas entre les enfants de Gaza, les chiites de Mossoul et les jeunes syriens. Et point. »
C'est quand même, alors, j'ai le droit de faire une parenthèse ou pas,
non ? Ah
bon, non, après je vous redonne la parole, hein, vous inquiétez pas, vous connaissez, c'est comme je suis, hein, je suis très généreux pour donner la parole aux autres. Mais c'est ce qui a été extrêmement choquant dans ce gazouillis tweet du 22 juillet, c'est le fait qu'il n'y avait pas une seule... On parlait de Mossoul, et on ne parlait absolument pas de ce qui se passait pour les chrétiens de Mossoul. Pas du tout, pas un mot. La ville a été vidée de ses chrétiens, à l'exception peut-être d'une famille ou deux. Il y en a une famille qui n'a pas voulu partir, hein, je crois, une famille de trois personnes, bon, qui n'a pas voulu partir, ouais. Me semble-t-il, d'après les informations que j'ai. Bon, peut-être il y en a qui se cachent, hein. Il y en a sans doute qui ont apostasié. C'est vraisemblable, quelques familles ont dû apostasier, puisque maintenant, il y a la charia qui s'applique, et puis il y a eu ce... Je vais revenir aussi sur la question de l'ultimatum de l'État islamique.
Ouais.
Et comme il y a eu quand même... Grâce en partie à l'Observatoire de la christianophobie, à d'autres blogs, amis, comme il y a eu quand même une levée de boucliers et un vent de protestation contre ce gazouillis infâme, c'est hallucinant quand même, ministre de l'Intérieur, hallucinant qu'il soit pas au courant de ça, il est au courant. Et ça veut dire qu'il se fout totalement, excusez-moi d'être mal poli, qu'il se fiche totalement des chrétiens, ça ne l'intéresse pas. Peuvent tous mourir le bec à
l'air.
Que donc, hier, il a supprimé le tweet. Il l'a effacé.
Il l'a effacé.
Ah ouais, il a été effacé, sans tube, on l'a gardé. On a gardé.
Il a effacé le tweet le 23 juillet.
Voilà, ça a été le tweet du 22 et il l'a effacé le 23. Voilà.
Mais on garde tout. Ça,
c'est on garde tout et on ne lâche rien. C'est notre devise.
Surtout pas les tweets nuls comme cela.
Alors, pardon Vivien.
Nul est dangereux même. Hein. Nul est très dangereux. Alors, franchement, c'est cette espèce de sélection sur l'indignation, c'est très connu. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'il commence par... Je continue d'ailleurs, à Mossoul, les chrétiens ont tagué le IIL, mm-hmm. l'État islamique du Levant. Là,
ça s'appelle maintenant État islamique.
Oui, parce que maintenant, donc, ils vont instaurer un califat, etc.
Tout ah, mais ils l'ont instauré, c'est fait, le califat.
Tout ça est très intéressant sur même l'ambiance générale de ce qui se passe en terre d'islam, hein, en général. L'instauration d'un califat comme ça a des répercussions assez intéressantes. Mais ce sera à développer ultérieurement, on va voir comment cette situation se passe. Mais je rappelle quand même qu'il taguait donc le symbole, le nazaréen, c'est-à-dire la lettre N en arabe, sur les habitations des chrétiens.
Mmh.
Voilà, alors nous avons été obligés dans vous savez, la communication et la propagande qu'on fait sur Internet notamment, on a été obligé de rappeler, pas avec des images, qui faisait ça à l'époque.
À l'époque, oui, dans les années 30, dans un autre pays.
Dans les années 30,
de l'autre côté d'un grand fleuve.
Donc il suffisait de mettre les photos de ce qui se passait dans les années 30 en Allemagne, et puis de l'autre côté, les photos de ce qui se passe aujourd'hui en 2014.
C'est magnifique.
En Irak. Voilà, magnifique. Avec une indignation, encore une fois. Là, le gouvernement s'en fout royalement.
Oui, tout à fait.
Voilà.
Alors, je vais vous faire encore un commentaire. Excusez-moi, j'ai encore faire des commentaires. Je crois que cette affaire de marquage des habitations chrétiennes par l'État islamique, ça a été l'erreur de communication de l'État islamique. Parce que je pense que là, ça quand même rappelle à énormément de gens quand même des périodes de l'histoire qui n'étaient pas des plus rigolotes, il faut dire, hein.
Oui.
Et la réprobation est absolument universelle. Universelle. Même le secrétariat général des Nations Unies a publié un communiqué à la demande de Ban Ki-moon, le secrétaire général, pour dénoncer ce fait précis, notamment du marquage des maisons des chrétiens. Parmi d'autres reproches qui sont faits dans ce communiqué, extrêmement sévère, évoquant même estimant que l'ensemble des mesures qui sont prises par le soi-disant califat, du calife autoproclamé, étaient constitutifs d'un crime contre l'humanité, ce qui est très grave. Donc c'est la poursuite est internationale, les jugements se font devant des tribunaux internationaux. Donc c'est pas très très bon pour les camarades au drapeau noir, là. C'est pas excellent.
Hein. Vous dites ça, faut dire ça rapidement, hein, les camarades.
Oui, bah, c'est les camarades du drapeau noir.
Qu'on retrouvait donc dans les rues de Paris également.
Ça a été la chose la plus infecte qui m'ait été donné de voir à Paris. J'en ai vu des choses infectes. Vous savez, comme il y a une blague comme ça, c'est dans un film et un dialogue de Michel Audiard, il y a un type qui dit ancien militaire, militant socialiste et patron de bistrot, c'est vous dire, c'est des conneries, j'en ai entendu dans ma vie. Et ben, je dois dire que j'en ai entendu beaucoup aussi de bêtises dans toute ma vie. Et là, de voir arboré à Lyon et à Paris le drapeau de l'État islamique, avait quelque chose d'invraisemblable. C'est absolument invraisemblable et insupportable. C'est insupportable, insupportable. Alors, excusez-moi, je vous ai interrompu. Et après, j'aurai un petit mot à dire aussi sur...
Oui, non, bien sûr. De toute façon, je pense que vous allez continuer sur la situation en Irak.
Oui, on va faire l'Irak. Et puis après, nous allons aussi parler beaucoup de la situation en Égypte, parce qu'on a la chance d'avoir ce soir aussi Sobhi Ghress, qui est avec nous, qui est le secrétaire général de Solidarité Copte Europe. Hein. Et puis, nous aurons aussi, par téléphone, nous aurons notre ami Ivana Gagic, qui est chargé de communication de l'association Solidarité Kosovo. On va parler un peu de la situation des Serbes, des chrétiens serbes, des orthodoxes serbes dans le Kosovo, qui n'est pas brillante non plus.
Ah, c'est très bien. Alors, c'est une émission qui va... Je vais conclure justement sur, sur cette solidarité chrétienne. C'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur, notamment à l'Observatoire de Christianophobie, mais aussi à Chrétienté et Solidarité. On en parle beaucoup à cette université d'été. On n'est pas vraiment en vacances. On parle beaucoup de ce qu'on va à la riposte. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que, tout comme les musulmans ont l'Oumma, c'est-à-dire cette communauté supranationale qui fait qu'un musulman doit toujours aider un autre musulman. La charité, c'est d'abord pour un autre musulman. Mais c'est surtout une communauté supranationale qui fait que les musulmans s'entraident au-delà des frontières. Et nous n'avons pas... Normalement, nous avons ça. C'est l'Église, si vous voulez, c'est l'Église mystique. C'est le corps du Christ qui dépasse toutes les nations. La citoyenneté céleste est largement au-dessus de la citoyenneté de nos pauvres cartes d'identité. Mais il faut retrouver le sens de la solidarité chrétienne, c'est-à-dire au-delà des nations, au-delà des frontières. Et il arrive parfois que beaucoup de nos amis...
Oui, et au-delà, cher Vivien, au-delà des dénominations.
Et au-delà
des dénominations, entre catholiques, entre orthodoxes, entre les différents rites, avec les protestants, avec il faut que tout le monde, et on en parlera justement sur l'Égypte, il y a des belles initiatives qui sont prises en Égypte là-dessus, et bien il faut bien comprendre qu'aujourd'hui c'est le chrétien, parce que les islamistes... le Abou Bakr, là, la califette de Mossoul, lui, il ne fait pas tellement de différence entre les uniates, ceux qui ne sont pas uniates, les chrétiens de ceci, les protestants de machin, les catholiques de rite latin, de rite rien. Il s'en fiche, ça n'a rien à voir. Tout ce qui est chrétien, c'est mauvais. Voilà.
Non, il faut pas faire de...
Alors donc, il faut faire un front chrétien. Moi, je dis que la persécution des chrétiens actuellement, elle va être un formidable outil de propulsion pour l'unité, le vrai écuménisme.
Vous
c'est un écuménisme du martyr, là, qu'on a entendu.
Le fameux proverbe, Daniel, et chers auditeurs, je vais finir là-dessus, hein, le sang des martyrs et la semence
des chrétiens, oui.
Venir.
C'est vrai. Alors juste, je voulais terminer avec vous, cher Vivien, parce que vous serez en présent dans le studio de Radio Courtoisie, en principe, le 21 août.
Oui, c'est exact.
Jeudi 21 août, avec Guillaume de Thieulois, puisque moi, vous ne voulez plus paraître dans mes émissions, je ne peux vous avoir qu'au téléphone.
C'est
donc,
exact.
Il n'y a que Guillaume de Thieulois qui a la chance de vous avoir en chair et en os. Bon, et même en eau, d'ailleurs, avec la chaleur qu'il fait là-bas à Toulon, on devait être en eau aussi. Oui. Il y a une petite chose que je voulais aussi préciser à l'intention de nos amis auditeurs, et puis aussi pour nos camarades irakiens qui sont présents devant moi, ça va leur plaire beaucoup, hein, beaucoup, beaucoup. Donc, le Quai d'Orsay a publié un communiqué furibard. Lundi 21 juillet, donc ça remonte pas à la nuit des temps, hein, lundi 21 juillet, dénonçant le scandaleux ultimatum de l'État islamique contre les chrétiens, disant aux chrétiens, voilà, vous avez le choix, soit vous vous convertissez à l'islam, soit vous payez la dzia, c'est-à-dire vous payez l'impôt de divitude, soit vous fichez le camp avec une main devant et une main derrière. Hein. Sinon, on vous zigouille. Sinon, entre vous et nous, il n'y a que l'épée. Hein, si je traduis de l'arabe, entre vous et nous, il n'y a que l'épée. On sait ce que ça veut dire, il n'y a que l'épée. On a compris. Très bien. D'ailleurs, j'ai fait un article là-dessus en disant, bon, pour les chrétiens de Mossoul, c'est une expression qui a été un petit peu célèbre en France, c'est la valise ou le cercueil. Sauf que là, les pauvres Irakiens n'ont même pas pu prendre de valise pour partir. Hein. Et s'il y en avait qui avaient pu prendre un tout petit peu d'argent sur eux, un bijou de famille, un truc comme ça, au poste de contrôle de l'État islamique, on leur a tout pris. Tout prix. Alors, il y a eu, c'est très beau, il y a eu donc un communiqué dénonçant le scandaleux ultimatum lancé contre les chrétiens, diffusé par le Quai d'Orsay le 21 juillet. Lundi 21 juillet. L'ultimatum était officiellement connu le vendredi 18 juillet, puisqu'il a été lu dans toutes les mosquées de Mossoul. Y compris dans les églises chrétiennes qui ont été transformées en mosquées. Parce qu'on a aussi ça. On a des profanations en plus.
Ouais.
C'est quand même invraisemblable. Alors, l'ultimatum a été annoncé, mais dans sa grande bonté, est-il dit dans le texte de la proclamation, dans sa grande bonté, la califette de Mossoul avait décidé de donner aux chrétiens jusqu'à samedi midi. Pour venir discuter des conditions d'application du truc. Personne n'y est allé, les gens ne sont pas fous quand même, parce qu'on rentre debout, on sent les pieds devant. Bon, personne n'est allé. Alors voilà, donc, l'ultimatum est tombé samedi 19 juillet à midi. Il était connu, puisque lu dans toutes les mosquées, donc toutes les chancelleries étaient au courant de ce texte immonde, mais invraisemblable, le vendredi 18, et le Quai d'Orsay le dénonce le 21, 4 jours plus tard.
Ils étaient en week-end, cher Daniel.
Non, écoutez, franchement, c'est à vomir. Enfin, des choses pareilles, c'est à vomir. C'est vraiment à vomir.
Ils s'en foutent. Est-ce que c'est l'objet des tweets de Cazeneuve et compagnie.
Alors bon, voilà, on a un gouvernement qui est en dessous de tout, mais enfin, ça, c'est pas la découverte de cette dernière semaine, ça, c'est clair. Heureusement, il y a quand même beaucoup de dirigeants politiques qui, quand même, se remuent quand même un petit peu actuellement. Je suis assez content de voir qu'il y a des bonnes positions qui sont prises par des gens du centre, des gens de l'UMP ou des gens du Front National, et même aussi quelques socialistes qui commencent à dire, oh là là, ça commence à sentir mauvais.
De bon grain, de tri entre le bon grain et l'ivraie, là,
ça se fera.
Sur cette question.
Bah, c'est la
donc,
parabole.
Comment pouvoir ceux qui bougent, ceux qui ne bougent pas.
La parabole du bon grain et l'ivraie, c'est que vous laissez pousser l'ivraie. Hein. C'est à la fin, on fauche tout et puis l'ivraie, on le met de côté, on le brûle. Hein.
Voilà.
Pas la peine de tirer dessus. Hein. Voilà, donc c'est absolument monstrueux. On va maintenant développer tout ça avec nos amis irakiens qui sont présents parmi nous avec nous ce soir. Là. On va développer un petit peu toute cette thématique. Merci donc, cher Vivien Hoche. Alors, prenez, j'allais dire, prenez du monde. Non, parce qu'en fait, c'est une université d'été, donc on bosse.
Oui.
Ouais, on boit des petits coups, mais on bosse aussi, quoi.
Voilà.
C'est bien. Bah, alors, salut tout le monde. Salut tout le monde de ma part. Et n'oublie pas de rappeler au cher camarade Jérôme Triomphe que je vais l'appeler au téléphone tout à l'heure en fin de seconde partie.
Qui est juste à côté, là.
Eh ben, va vous l'embrasser pour moi, alors voilà. Allez,
merci,
salut les jeunes et à tout bientôt. Voilà, donc c'était Vivien Hoche en direct de l'université d'été de la Grive, de Chrétienté et Solidarité. Ils sont actuellement donc dans le sud de la France, dans les départements du Var, à Toulon. Et ils travaillent. Et il y a une bonne équipe là-bas, seulement cette équipe, ça m'embête parce qu'ils sont tous là-bas et donc ils ne sont pas ici dans mon émission. Donc ça fait le troisième. J'avais un autre que j'avais prévu qui ne peut pas venir non plus et nous n'aurons Maître Triomphe qu'au téléphone. Alors je me tourne maintenant vers Anthony Yalab et Madeleine Yalab. Je vous représente de nouveau pour les auditeurs de Radio Courtoisie qui prendraient l'émission en cours, ce qui peut arriver. Notre amie Madeleine est donc co-responsable du comité de soutien aux chrétiens d'Irak. Je vais demander de m'expliquer ce que c'est. Et puis Anthony Yalab, lui, est un des coordinateurs coordinateur de la journée d'action pour les chrétiens d'Irak, celle qu'on a faite près de l'Assemblée nationale, c'est ça,
voilà, le 8 juillet.
C'est ça, au tout début du mois, hein, c'est ça, où j'étais aussi, bien sûr. Enfin, je suis partout, il n'y a pas de problème, là, vous me retrouvez partout. Donc, je vais tout le temps. Je suis dans toutes les. J'étais pendant toutes ces deux dernières années dans toutes les manifestations, j'ai signé toutes les pétitions, même si c'était des doublons, des triplicages, je m'en fiche, je signe tout et j'y vais. Ah bah c'est comme ça qu'il faut faire, c'est ce qu'il faut faire. Bon, à mon âge, je deviens, j'ai comme si j'avais 40 ans. Je suis content comme tout, je suis heureux, ça m'a redonné un coup de jeunesse tout ça. Alors, chère Madeleine Yalab, d'abord un petit point de détail, parce que j'avais posé la question à Anthony, il m'a répondu, mais autant que ce soit lui et vous qui répondiez, mais quel était votre degré de parenté? Parce que tous les deux, vous avez le même patronyme de Yalab.
Alors, oui, c'est très facile à expliquer. Il y a, entre tous les Assyro-Chaldéens, il y a quelque part un lien de parenté, un lien de famille. Nous sommes effectivement issus du même village qui s'appelle Ishi et qui se trouve à l'extrême sud-est de la Turquie, à la frontière avec l'Irak. Et en 1934, l'État turc a décidé de turquifier tous les noms topographiques, tous les noms patronymiques, les noms des lieux, des villages, des villes. Et ainsi, Ishi est devenu Onbudak, les 10 épis en turc. Et comme vous le savez, chez les populations sémites, il n'y a pas de nom de famille.
C'est toujours le fils, c'est
le prénom. À proprement parler, le prénom du père vaut nom pour le fils ou la fille, mais ils ont décidé de turquifier parce qu'il fallait assimiler toutes ces populations-là, et ça, cette loi du patronyme est passée en 1934.
Excusez-moi Anthony, mais assimiler ceux qui n'avaient pas tué.
Voilà,
puisqu'il
ne restait plus que les rescapés du génocide, les survivants. Et ainsi, ils sont allés de village en village pour attribuer des noms purement turcs pour faire oublier un peu les racines chrétiennes et identitaires de ces populations-là. Et ils l'ont fait tout à fait par hasard. Et dans notre village, ils ont attribué 4 noms principaux. Yalab, Yabas, Yalbir et Yalsin.
Avec des Y à chaque fois, c'est ça?
Avec des Y, ça commence toujours par YA, et ils ont fait pareil dans tous les villages assyro-chaldéens.
Je crois que la puissance coloniale française a fait la même chose en Algérie, en Kabylie. Je pense que les villages avaient les patronymes devaient avoir une lettre. Donc vous avez le A, le B, le C, le D, le F, le G, le H, etc., le I, etc. Ce qui fait que les gens ont pris des... Alors c'était des noms locaux, si vous voulez, mais c'était... Tout le monde était, un même village, c'était que des H. Mmh. Un autre, pour ça que moi, mon origine aussi, donc c'est un H. Bon. Et alors, il y avait les autres, c'est des A, il y avait les B, il y avait les C, les D. C'est quand même, c'est très curieux tout ça. Bon, enfin, bon, voilà, ça c'est.
Voilà comment.
Le mystère de l'histoire.
On s'est retrouvé avec ces noms, bien entendu. Après leur arrivée en France, beaucoup ont décidé de franciser leur nom, soit en le traduisant, soit en le changeant carrément, puisque ces noms turcs, finalement, n'ont pas de signification particulière pour nous. Nous nous définissons par rapport à notre appartenance à une tribu d'abord et à une communauté, à un peuple à part entière.
D'accord. Merci pour cette explication qui en dit beaucoup aux auditeurs de Radio Courtoisie. Hein. C'est quand même très intéressant. On aime beaucoup les Turcs ici, c'est pas possible. Alors, chère Madeleine Yalab, pardon, bah vous appelez Madeleine maintenant, oui, comme ça fera plus facile. Alors, le comité de soutien aux chrétiens d'Irak, le CSCI France, qu'est-ce donc ?
Déjà, d'où ces petits
bien près du micro, fort.
Jeunes de la communauté assyro-chaldéenne, suite donc à la prise par l'État islamique. Vous m'entendez bien?
Je ne sais pas. Je fais signe à notre cher Jocelyn qui est aux manettes. Bonsoir Jocelyn, merci d'être là. Qui me met un tout petit peu plus fort parce que moi j'ai une espèce de casque de guerrier, je ne sais pas quoi d'ailleurs. Donc j'ai besoin d'avoir ça sur les oreilles pour vous entendre.
Voilà. Donc c'est des jeunes de la communauté assyro-chaldéenne qui se sont inquiétés des événements en Irak. On avait appris donc la prise de Mossoul par l'État islamique. On avait également appris qu'une grande partie de la ville de Karakoche, qui se trouve à 30 km de Mossoul, qui est pratiquement...
100% chrétienne.
Voilà, quasiment, oui.
Comme Al-Kosh aussi.
C'est ça. Et comme elle se trouvait qu'à 30 km de Mossoul, et que les djihadistes s'approchaient de cette ville-là, pratiquement l'ensemble de la population chrétienne a fui la ville. Et du coup, on a entendu ce cri de peur de la communauté. Bon, au final, la plupart des gens ont pu revenir chez eux parce qu'on a réussi à pousser l'ennemi.
À Karakoche.
C'est à Karakoche. Mais maintenant, les habitants vivent sans eau et sans électricité. Donc en entendant tout ça, en entendant l'appel de notre patriarche, donc Louis...
Louis Raphaël Ier Sacco.
Qui a fait un communiqué de presse assez alarmant, qui a appelé donc à bouger, à ne pas fermer les yeux sur ce qui se passait là-bas. Également, il y a eu un appel de Monseigneur Nona, archevêque de Mossoul, qui disait clairement le YEL a pris mon diocèse. Donc nous, étant des jeunes assyro-chaldéens...
Il est à diocèse sans fidèle maintenant.
Hein. Maintenant, il est parti. Il n'est plus là-bas maintenant.
Il dit qu'on lui a volé son diocèse.
Peut-être une famille. J'ai entendu, je l'ai signalé d'ailleurs, qu'il y a encore peut-être une famille. Il y a un instituteur, un jeune d'ailleurs.
Oui, un
homme qui doit avoir 27-28 ans avec sa femme et son petit garçon. Ils ne veulent pas partir. Ils disent s'ils veulent nous tuer, ils vont nous tuer. Ça va faire des martyrs. Mais non, quand même, on ne voudrait pas. Voilà. Mais il n'y a plus de chrétiens. Les quelques autres qui sont. Il y a eu deux au moment de l'arrivée de l'État islamique. D'Irak et du Levant, l'ancienne formulation. Daesh, bon, ils sont, la plupart des chrétiens de Mossoul sont partis vers Karakoche. Et puis, la fin, ça a été quand l'État islamique s'est proclamé avec le califat et tout ce qu'il y a avec. Alors, il reste encore peut-être 3000, on dit à peu près peut-être 3000. Tout le monde est parti. Hein. Je comprends.
Pardon. Du coup, ces jeunes sur Internet, sur Facebook, se sont inquiétés. Il y en a pas mal qui réclamaient des actions ici en France. Que pouvons-nous faire pour notre peuple qui souffre là-bas? Puisque c'est notre église, une bonne partie de notre communauté est encore en Irak. C'est comme ça qu'est né ce comité de soutien des chrétiens d'Irak.
Très bien, très bien. Oui. Alors, la communauté, c'est alors il y a des communautés, il y en a dans plusieurs endroits en France, une communauté à Sarcelles qui est importante. Hein, oui. J'étais allé la visiter il y a quelques années. Il y a quelques années, j'étais allé. Oui. C'était, oh là là, ça fait peut-être 10 ans, hein, pas loin de 10 ans, non? Dizaine d'années. Peut-être pas tout à fait, mais presque. Hein,
bon.
C'était au début. Oui, Sobi parlait près du micro. Je me souviens plus pourquoi j'étais allé. Quelque chose. On a fait une émission avec les Assyro-Chaldéens ce soir. Un truc comme ça, je me souviens. Bon, mais ça remonte à un bout de temps. Et puis, alors, vous en avez à Marseille aussi, qui ont aussi manifesté.
Oui.
J'ai vu, il y avait une belle manifestation à Marseille.
Alors, le jour même, c'était le 8 juillet dernier. C'était un mardi. Alors, à Paris.
Et Paris, sous la pluie. Et Marseille, sous le soleil.
Décidé de manifester devant l'Assemblée nationale pour alerter quand même le Parlement français, les sénateurs. Et il y avait 500 jeunes qui étaient réunis ce jour-là sous une pluie battante.
Ah, il fait froid,
nous n'avons pas eu plus de chance ce soir même, puisqu'à Sarcelles, on avait une marche silencieuse jusqu'à l'église Saint-Thomas, entre la sous-préfecture et Saint-Thomas. Et là encore, la pluie nous a tenu compagnie jusqu'à l'église. Et il y avait quand même plus de 2000 personnes qui ont marché jusqu'à Saint-Thomas, où on a tenu une cérémonie de recueillement pour les chrétiens tués depuis 2003.
Il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises. Il y a aussi un jeune prêtre qui a été tout récemment ordonné. Je pense qu'il est ordonné en 2011. le père Vianney, je ne me souviens plus de son nom, hein, qui a lancé aussi une très belle opération qui va se dérouler demain, qui est une journée de prière et de jeûne pour les chrétiens d'Irak. Et alors, ils ont fait une belle petite affichette qui est en 36 langues. Ils ont mis ça en toutes langues. L'américain, l'anglais, l'arabe, extraordinaire. Et ça a même été, il y a eu une mention qui a été faite sur Radio Vatican de cette initiative. C'est quand même, c'est pas mal, quoi. Enfin, c'est bien. Voilà, alors là, il n'y a pas besoin de se réunir. On fait ça dans sa paroisse, on fait ça chez soi. Il n'y a pas besoin d'aller, de sortir dans la rue pour jeûner. On peut jeûner chez soi. Et puis, on peut réciter, une dizaine supplémentaire. Je le dis ça pour nos amis auditeurs de Radio Courtoisie, qui voudraient s'associer, vendredi, c'est-à-dire demain, pour ceux qui nous écoutent en direct ce soir, et aujourd'hui même, pour ceux qui nous écoutaient en rediffusion demain matin, de s'associer par un acte de dévotion, de piété, un temps d'adoration devant le Saint-Sacrement, une dizaine de chapelets, un petit effort sur la nourriture du vendredi. On nous le demande, en principe, on doit le faire en principe tous les vendredis, mais là on peut faire un petit effort supplémentaire, au profit bien sûr de nos frères irakiens. Je veux dire, le bien que m'inspire le patriarche, donc Louis Raphaël Ier Sacco, c'est un homme excellent. C'est un tout petit homme, il est tout petit, mais c'est une pile électrique. Hein. Il est chargé comme une pile électrique. Il va avoir absolument tout le monde. Il est pour essayer de plaider la cause de. Alors lui est à Bagdad, évidemment, hein, mais pour plaider la cause de tous les chrétiens de tous les chrétiens d'Irak. Parce qu'il y a un problème que je voulais vous poser, qui est un problème un petit peu, je dirais, un peu plus politique, parce qu'on voit se dessiner une espèce de nouvelle carte de l'Irak. Carte de l'Irak où il y aurait. Un Kurdistan, puisque le Kurdistan, la région Kurdistan, est déjà autonome. Sa propre armée, maintenant, a pris la main sur les puits de pétrole et donc peut commencer à vendre le pétrole. Bon. Avec les problèmes que ça pose, parce qu'évidemment, le Kurdistan a aussi des revendications territoriales sur une partie de ce qu'il estime être son pays, en Turquie, en Iran. Tout ça peut poser quand même beaucoup de problèmes pour la région, qui est déjà quand même une région extrêmement fragilisée. Quoi. Bon. C'est comme si on lançait...
Et en Syrie aussi.
Enfin, voilà, on est vraiment dans une région, une mosaïque extrêmement compliquée. Alors, on a l'impression qu'il va y avoir un Kurdistan. Certains parlent aussi de la création d'un Sunnistan avec l'État soi-disant État islamique, le califat, qui est un peu transnational, puisqu'il a aussi, il contrôle aussi une partie de l'extrême nord de la Syrie, notamment la ville d'Alep, qui est martyrisée comme c'est pas possible. Et puis, il y aurait une espèce de chiicistan, ouais, dans la partie sud, autour de Bagdad. Et puis quoi ? Et les chrétiens, quoi ? Alors les chrétiens, quoi ? Voilà la question que je vous pose.
Oui, effectivement, on voit un démantèlement, un amorcellement de l'Irak qui se profile à l'horizon. Effectivement, la situation nous préoccupe parce que derrière toutes ces communautés, il y a des États puissants qui les défendent, qui défendent leurs intérêts. Et finalement, nos chrétiens irakiens sont trimballés du nord au sud, du sud au nord. Bassora, qui comptait plus de 30 000 chrétiens et qui se trouve au sud, s'est vidé de sa population chrétienne. Bagdad, il ne reste plus qu'un tiers de la population chrétienne. Ils ont tous fui vers le nord, vers le Kurdistan, où ils jouissent d'une relative sécurité, oui. Parce que maintenant, les Kurdes, ils savent que c'est important pour eux, cette présence chrétienne, parce que ces gens constituaient les forces vives de la nation avant la chute du régime. Ils en ont besoin aussi pour servir avec tous les villages d'une zone tampon. Et puis, ils en ont besoin aussi parce que les chrétiens ont toujours joué un rôle d'intermédiaire entre les différentes composantes. Ce sont toujours eux qui ont réconcilié, qui ont trouvé des compromis entre les différentes composantes ethniques et religieuses. Et maintenant, le Nord se vide de sa population. À Mossoul, comme vous l'avez dit, il ne reste plus que une seule famille. Les 30 églises sont sous le contrôle de l'État islamique, qui ne menace pas seulement les chrétiens à Mossoul, parce que tout ce qui n'est pas sunnite est une cible légitime, donc les chiites, les chabaks, les turkmènes, les autres yézidis et assyro-chaldéens. Donc on assiste à une éradication, une purification ethnique, parce que ces chrétiens sont pour une très grande majorité d'entre eux des Assyro-Chaldéens, mais c'est le peuple autochtone de ce pays. Donc d'accord, il y aura un démantèlement de l'Irak, et d'ailleurs il y a plusieurs options qui sont discutées, mais visiblement ça sera ce démantèlement, puisque l'État sera scindé en trois parties. De toute façon, à la base c'était un État factice créé en 1921, donc il y aura le Kurdistan qui s'apprête à proclamer son indépendance. Ce sont d'ailleurs ces Peshmerga kurdes qui repoussent les militants djihadistes vers les autres villes, mais pour l'instant, nos chrétiens, on ne sait pas trop s'ils vont bénéficier d'un havre de paix quelque part, mais on a l'impression que tout le monde veut les voir partir. On ne veut plus voir d'Assyro-Chaldéens, on ne veut plus voir de chrétiens, mais je me demande ce qu'il en sera demain. Sans ces chrétiens, la stabilité de cette région serait compromise, et puis toute la contribution que ces chrétiens d'Orient, d'Irak ont eue pour les civilisations humaines, pour cette région-là, je pense que ça serait un phénomène très dangereux, et c'est pour ça que maintenant les organisations assyro-chaldéennes, les partis politiques mettent sur la table une idée de zone autonome. Mais cette zone autonome pourrait aussi être prise pour cible, donc...
J'en avais entendu parler effectivement de ce qu'on appelle traditionnellement la plaine de Ninive.
La plaine de Ninive.
Ce qu'on appelle Mossoul aujourd'hui, c'est l'antique Ninive. Il faut dire les choses comme elles sont.
Ninive qui est à quelques kilomètres et qui est la capitale antique.
C'est la grande capitale mésopotamienne. Mais moi j'avais entendu parler il y a au moins 2 ans et tout de ça, c'est-à-dire de la constitution d'une espèce de province autonome dans la plaine de Ninive, à la condition bien sûr qu'il y ait un débouché sur la mer, hein, parce que les choses enclenchent. Il n'y a qu'en Suisse que ça marche. Bon, mais au Moyen-Orient, ça ne marchera pas. Il faut quand même que les gens aient un débouché sur la mer. Donc ça peut descendre jusqu'à Bassora, à la limite, un petit couloir, c'est pas impossible. Peut-être que ce serait une solution. Et c'est peut-être ça sur lesquels les organisations internationales, les chancelleries devraient quand même travailler. Non,
je pense, mais ça présente quand même aussi des risques, parce que à la base l'idée c'était de préserver un Irak uni, parce que ces chrétiens vivent depuis 1300-1400 ans avec leurs voisins musulmans, donc tout allait bien jusqu'à ce que le régime de Saddam Hussein, qui n'était pas exempt de tout reproche, on peut lui reprocher effectivement beaucoup de choses, il a quand même organisé une chasse à l'homme pour les Assyro-Chaldéens, les chrétiens qui étaient engagés en politique. Mais à partir du moment où ils se tenaient à l'écart d'un quelconque engagement politique, ils pouvaient accéder à toutes les strates de la société civile.
Mais jusqu'au gouvernement, parce qu'il y avait
jusqu'au gouvernement
un ministre d'affaires étrangères qui était
Tarek Aziz, qui s'appelait Johanna, je crois, de son prénom chrétien. Voilà, il pouvait accéder à toutes les fonctions, et c'est pour ça aujourd'hui que les Kurdes s'intéressent à cette population, mais on ne sait pas trop ce que ça va donner avec les Kurdes, qui ont eux aussi commencé une politique de kurdification, qui eux aussi commencent à attribuer des noms kurdes à l'ensemble des villes et villages du nord de l'Irak, qui avaient été rasés par Saddam en 1975, et qui commencent à être... repeuplé aujourd'hui avec l'afflux massif de réfugiés. Mais il est clair aujourd'hui qu'un Irak fédéral ou un Irak uni n'est qu'une utopie.
Utopie. Alors oui, ce ne sera pas une situation... je sais que le patriarche Louis-Raphaël Ier Sacco avait, dans une interview, il a même vu Barzani, il était avec Barzani hier ou avant-hier,
c'était hier.
Alors vous voyez, c'est quand même... il bouge beaucoup quand même, hein, le patriarche, il se bouge. Hein, bon. Mais c'est beau de voir des gens comme ça. Mais il disait, si les choses continuent comme ça, on va avoir une espèce de cantonisation de l'Irak, hein, les cantons irakiens. Alors moi, je sais pas si c'est possible après de fédérer des cantons aussi différents, parce que je vois très mal les Kurdes vouloir un canton, ils veulent un État propre, puis voilà, c'est tout. Pour les autres, je ne vois pas comment on peut faire des cantons. C'est la fin de toute nation, de l'idée de nation. On parlera un petit peu avec la question de l'Égypte aussi tout à l'heure, mais enfin, si vraiment les chiites sont dans un canton, les sunnites là, puis après quoi, on voit pas très bien. Mais donc, alors, la question que je vous pose, la question terminale, enfin la question pour terminer ce soir, évidemment, parce qu'on aura l'occasion de vous recevoir de nouveau si vous souhaitez revenir dans notre sur Radio Courtoisie, et notamment dans cette émission de Libre Journal de Chrétienté. Qu'est-ce que vous attendez des chrétiens français? Qu'est-ce que vous attendez du gouvernement français? Qu'est-ce que vous attendez de l'Église en général, universelle? Et qu'est-ce que vous attendez des instances internationales comme l'Europe ou les Nations Unies, vous, en tant que chrétien irakien? Alors, vous ne voulez pas faire le deuil de l'Irak, en fait?
Non, puisque c'est justement les limites d'une zone autonome, d'une région autonome, puisque même s'il y a une zone autonome, il faudrait qu'elle soit assortie de garanties internationales, parce qu'une population fragilisée comme ça deviendrait très vite une cible. Et puis, pour nous, notre pays, c'est l'ensemble de l'Irak, parce que c'est le foyer ancestral du peuple assyro-chaldéen. Cette région, il l'habite depuis plus de 6 700 ans, c'est le berceau des civilisations et nous y avons grandement contribué. Alors, il s'avère aujourd'hui que les chrétiens d'Irak traversent une période très difficile, très douloureuse, et nous avons justement décidé de former ce comité de soutien aux chrétiens d'Irak pour essayer d'attirer l'attention des médias, mais pas seulement de l'opinion publique française, mais surtout des chrétiens d'Occident. On leur dit que c'est sur cette terre que le christianisme est né, c'est sur cette terre que les apôtres de Jésus ont évangélisé, Saint Thomas qui est allé jusqu'en Inde et puis les missionnaires...
Et jusqu'en Chine, parce que maintenant on a des preuves archéologiques, il est allé en Chine.
Effectivement, oui. Puisque
c'est extraordinaire,
l'Église de l'Orient comptait au XIIIe siècle jusqu'à 80 millions de fidèles. Ils sont allés, comme vous le disiez, jusqu'en Chine, puisqu'il y a une stèle.
Voilà, c'est très clair. Et puis là, il y a les textes aussi de oui, l'époque. C'est quand même important. Ce qui voudrait dire, évidemment, il y a une rupture après. Il faudra attendre les Portugais, etc. Pour que la christianisation reprenne aujourd'hui. Vous voyez ce qui se passe en Chine aussi, c'est un pays qu'il faut bien observer, parce que le christianisme chinois est très très dynamique, que ce soit les protestants ou les catholiques, c'est très dynamique. Attendez-vous, dans 10 ans, dans 20 ans, des surprises considérables. Ça veut dire quasiment que c'est presque une église apostolique, d'un point de vue de l'histoire de l'église. C'est une église, elle a été fondée par un apôtre. Bon, c'est une église apostolique. Bon, alors, c'est drôle, c'est la moins apostolique, mais plus apostolique que des églises qui ne sont pas du tout apostoliques, quand même. Bon, c'est quand même fou, quoi. Alors, oui, donc, oui.
Effectivement, cette église, ces populations-là, qui étaient les premiers chrétiens, qui ont été parmi les premiers à recevoir le message donné, transmis par Jésus, le message chrétien, et qui l'ont diffusé à travers les âges et l'espace. Et aujourd'hui, ils sont réduits, affaiblis, et ce que l'on veut, c'est que les chrétiens de France en particulier, puisque la France, comme vous le savez, est la protectrice et la nation qui protégeait les chrétiens d'Orient depuis les capitulations ottomanes. Le clergé a toujours été formé par les missionnaires français, qu'il s'agisse des lazaristes, des dominicains, des capucins, qui sont encore aujourd'hui un peu présents en Turquie et dans ces pays-là aussi, en Irak surtout. Ce que l'on veut, c'est que les chrétiens de France entendent le cri des chrétiens d'Irak, puisque leur situation est vraiment très difficile. On assiste à une crise humanitaire sans précédent.
Sans précédent.
C'est vraiment douloureux pour nous d'en parler, parce que effectivement, il y a ces assauts des djihadistes qui les poussent à partir, et ils s'entassent aujourd'hui dans des pays, dans des bidonvilles, en Turquie, en Jordanie, en Syrie, où la situation est aussi particulière et ils sont tous en attente d'un visa pour pouvoir partir. Bien entendu, ici, je ne veux pas parler et je ne veux pas que l'on me dise que l'on veut la déchristianisation de l'Irak. Ce n'est absolument pas le but. Ce que nous voulons, c'est effectivement que la présence chrétienne se maintienne sur cette terre en Irak, que cette communauté se renforce une nouvelle fois, puisque à la veille de la première guerre du Golfe, il y avait plus d'un million et demi de chrétiens, et aujourd'hui, selon les plus optimistes, il ne reste plus que 400 000. Alors hier, avec une journaliste dont on discutait des chiffres, elle disait, vous savez, c'est très barbant pour les lecteurs français, mais c'est significatif. Baisser de 8% en 1990, à 1,1% de la population totale, c'est vraiment dramatique et catastrophique. Et c'est pour cela que nous voulons éveiller les consciences, parce que dans ces pays-là, dans ces pays voisins, ils sont en difficulté. Nous savons qu'il y a des réseaux de prostitution qui sont organisés par des Turcs, par des Kurdes, par des Arabes, avec des femmes qui ont perdu leur mari, leur frère. Et c'est vraiment une situation désastreuse, et nous voulons que l'Église de France éveille les catholiques, éveille les protestants, quelle que soit leur confession de France, pour qu'ils entendent et relaient le message, la voix de ces chrétiens d'Irak. Et ce que nous demandons à la France en tant que protectrice historique des chrétiens d'Irak, d'intervenir. Alors certains vont dire, mais pourquoi que les chrétiens d'Irak alors que toutes les composantes irakiennes souffrent de cette guerre? Mais parce que ces populations chrétiennes n'ont pas d'autre soutien, et je le souligne de nouveau, si ce n'est pas la France qui hausse le ton, qui dit les choses clairement, la communauté internationale ne nous entendra pas, et nous avons besoin de l'action diplomatique, humanitaire et politique de la France pour améliorer la situation.
Et si le gouvernement français n'est pas capable de le faire, que l'Église qui est en France le fasse. On attend que cela, vraiment que cela. Alors, deux petites questions d'auditeurs. Que fait Marine Le Pen et M. Philippot au sujet des massacres des chrétiens d'Irak? Lui, alors je pense qu'il s'agit de M. Philippot, lui qui soutient les manifestations palestiniennes en critiquant leurs interdictions. Bah, moi, je ne sais pas ce qu'ils font, ça, je ne sais pas. Il faut leur demander à eux. Madame, moi, je ne suis pas porte-parole du Front National. Un autre monsieur nous demande, les islamistes en Syrie sont formés par des Français, les Anglais, les Américains, les Israéliens. Ayez le courage d'en parler. Bon, voilà, monsieur, c'est fait, mais enfin, c'est pas la première fois qu'on en parle sur Radio Courtoisie. On le sait très bien, puisque ce qui est absolument extraordinaire, c'est que les États-Unis font semblant de brandir des armes en disant on va taper sur la tête de l'État islamique, alors qu'ils ont pourvu l'État islamique d'armes pour taper en Syrie. Alors, il faut quand même un petit peu logique, quand même, vous voyez, c'est quand même fou, quoi. Quand ils reviennent chez nous, ils feront des attentats, c'est l'arroseur arrosé. Bah oui, tout à fait, il y a ce risque. Aujourd'hui, on en est conscient, mais malheureusement, il faut quand même vous savoir, cher monsieur, cher auditeur de Radio Courtoisie, que nous n'avons pas les moyens techniques et financiers pour contrôler l'ensemble des djihadistes qui sont sur le territoire ou qui vont y revenir. On n'a pas assez de monde dans les services de renseignement. Voilà. Oui, vous pouvez, bien sûr, je vous écoute. Vous voulez dire un petit mot
Madeleine.
Oui,
Madeleine.
C'est bien ça. C'était juste pour annoncer deux actions.
Ah, très bien. Alors, on note.
Donc, en soutien donc, de ce peuple qui souffre en Irak, de ces chrétiens qui souffrent. Donc, il y en a un, c'est ce samedi à Lyon, à 14h à Lyon.
C'est 14h ou 15h?
Il me semble que c'est...
Ça a changé.
L'heure était... de la préfecture.
Voilà, je pense qu'on a changé de lieu aussi. Ça partira. Alors, pour nos amis lyonnais, ça partira de la place Saint-Jean, qui est devant l'église Saint-Jean-Baptiste. Ordinairement, ça devait partir des terreaux ou des brotteaux, je ne sais, des terreaux. Mais c'est impossible, parce qu'il y a une autre manifestation qui n'est plus pro-palestinienne. Alors, on ne peut pas mettre tout ça ensemble, c'est pas possible.
C'est une manifestation pacifique.
Donc, alors, Lyon, manifestation. Alors, regardez, vous arrivez dès 14h, c'est pas grave. 15h, ça partira de la place Saint-Jean, là où il y a la fontaine Saint-Jean, devant la belle cathédrale de Saint-Jean-Baptiste.
Et ce dimanche, donc, qui est organisé par le comité de soutien des chrétiens d'Irak, on va se réunir à 17h précise devant Notre-Dame de Paris. Du coup, on va faire une manifestation pacifique.
D'accord.
Et qui sera suivi à 18h30 d'une messe dans la cathédrale en soutien de l'ensemble des chrétiens d'Orient.
Magnifique. Vous m'enverrez un tout petit peu plus de détails sur cette manifestation de dimanche, qu'on puisse l'annoncer sur les blogs, sur les réseaux sociaux.
Moi, j'ai aussi une information pour Paris, Trocadéro, samedi à 14h.
On n'en parle pas, c'est ça, hein?
Nous ne savons pas qui l'organise.
On ne sait pas trop qui c'est.
C'est Georges Adaya qui a envoyé le mail.
Nous ne savons pas qui l'organise, donc nous ne commentons pas.
En tout cas, pour les chrétiens, on y va.
Alors voilà, je vais maintenant vous remercier. Alors, pour vous joindre, est-ce qu'il y a un moyen de joindre le comité de soutien aux chrétiens d'Irak? Il y a la page Facebook.
Facebook.
Alors, vous la retrouverez, cette page Facebook, vous allez la retrouver sur le blog Courtois de Radio Courtoisie, qui est un blog indépendant de la radio, mais qui sert beaucoup les intérêts de la radio et qui est très utile pour les auditeurs. Donc, sur la fiche technique de ce jour, vous aurez donc sous les noms de Anthony Yalap et Madeleine Yalap, vous avez le lien direct pour aller à la page Facebook, moi je dis Facebook, du comité de soutien aux chrétiens d'Irak. Bon, je vous remercie beaucoup, chère Madeleine, cher Anthony, vous pouvez rester avec nous bien sûr pour la fin de l'émission, ça va être très intéressant ce qui va passer aussi à présent, et puis on vous souhaite bien évidemment tous les d'abord on est en union de prière avec vous, et vous savez que vous pouvez compter sur nous, pas seulement pour la radio mais pour le reste aussi.
Est-ce qu'on a le temps de leur poser une petite question?
Oui, mais semi-graisse, vous posez toutes les questions que vous avez, ça va être défalqué de votre
démontant
parole.
Hein. C'est pas grave.
Alors, semi-graisse, qui est le secrétaire général de Solidarité Coop d'Europe.
J'ai appris que le chef de Daesh, elle était retenue par les Américains. Dans la première guerre d'Irak, effectivement.
Oui.
Après, ils l'ont libérée, elle est venue en Irak.
Oui.
Elle a été carrément donné dans la main de l'actuel Premier ministre, et après l'a libéré. Alors, est-ce que vous ne trouvez pas que dans tout ça, il y a quand même une organisation, une volonté de semer la bagaille, de diviser l'Irak, de créer cet État islamique par plusieurs forces à partir des Américains?
Je ne sais pas, très honnêtement, je n'ai pas beaucoup d'informations à ce sujet. Je ne sais pas qui manipule qui exactement.
Quand on lit les choses ensemble, c'est vrai que ça fait, on constate.
Quand on croise les différentes lectures, effectivement, il peut y avoir des choses, des commentaires, des interprétations.
Mais n'oublions pas une chose. Moi, je ne suis pas un homme, un complotiste. Je ne vois pas des complots partout. Mais il existe des complots. On peut voir qu'il existe des complots sans être un complotiste. Maintenant, il y a une chose qui est très importante dans
l'histoire. Moi, je dirais qu'il existe des plans.
Des plans, oui, des plans.
Plus que
complot. Mais il y a une chose aussi qui est très importante, dont il faut que nous souvenions tous. Ça a été dit à cette antenne même par le regretté professeur Pierre Chaunu, qui est un protestant, qui est un grand historien, et on lui demandait, cher professeur, enfin, comment expliquez-vous tous ces problèmes qui se passent dans l'histoire de l'humanité, ces révolutions, Et il répondait, il y a trois raisons. Elle avait la voix un peu forte, Pierre Chaunu. Trois raisons. Premièrement, la connerie. Deuxièmement, la connerie. Troisièmement, la connerie. Bon, cette chose-là, évidemment, je redis simplement, je fais une citation de ce qui a été dit sur Radio Courtoisie, on ne me le reprochera pas. C'est vrai qu'il y a aussi ça. La bêtise, nous la voyons tous les jours dans le monde politique. La bêtise, elle est massive, elle est énorme, elle est éléphantesque. Bon, enfin voilà. Alors, on va parler d'une autre bêtise maintenant. Alors, merci, cher.
Merci d'aller à la vie.
Pour tout, rester avec nous pour la fin de l'émission. Vous allez voir, ça va être aussi très intéressant. Et maintenant, nous allons, à propos de bêtises historiques, nous allons voir aborder un sujet très rapidement, un sujet sur le Kosovo. Alors, je voulais d'abord savoir si j'avais au téléphone Ivana Gagic. Allô, Ivana? Non, je ne l'ai pas. Elle a peut-être. Ça t'a raccroché, vous pensez? Ça a dû raccrocher, voilà, parce que l'attente est là. On va rappeler. Alors, on va la rappeler un tout petit peu plus tard, Ivana. Vous allez l'avoir, hein, Jocelyn, vous allez l'avoir au téléphone. Dire, on va la rappeler. On va la rappeler dans 20 minutes à peu près, hein, dans une vingtaine de minutes, voilà. Alors, je passe tout de suite à l'ami Semigresse, parce que c'était intéressant comme bêtise. D'ailleurs, la création du Kosovo, ça c'est pas mal non plus. Ça, je veux dire que vraiment, et ça c'est en Europe, hein. C'est pas dans les plaines de Ninive, hein, quand même. Bon. Alors, cher Semigresse. Alors, vous êtes de Sohag, hein, c'est ça, dans Sohag. Hein. J'ai vu ce matin d'ailleurs.
Originaire.
Voilà, une petite formation sur un jeune paysan cop de Sohag de 27 ans, le gars qui a été enlevé par quatre hommes masqués. Alors, c'est des enlèvements, c'est tous les jours en Égypte. Les rançons. les destructions de commerce, les assassinats, c'est toujours... Alors, on pensait quand même, maintenant que les frères musulmans ont été évacués du pouvoir central avec la chute de Morsi, et puis l'élection, j'allais dire une élection, vous savez, on a l'expression en France, une élection de maréchal, mais en fait il est maréchal en plus,
oui.
Monsieur Al-Sissi.
Oui, c'est ça. Vous avez le titre.
Voilà, que les chrétiens allaient pouvoir un peu respirer, puis on a l'impression qu'ils ils peuvent respirer, mais pas beaucoup.
Pas beaucoup.
Alors ?
Tout à fait. Bon, écoutez... Donc, si on veut parler vraiment des souffrances du peuple chrétien en Orient, dans leur ensemble, et pas simplement en Égypte, moi, j'aimerais bien parler souvent de cette histoire du plan. Du plan du changement de la carte du Moyen-Orient depuis plusieurs années. Et celui qui est derrière ce plan, c'est la Turquie, à l'origine. Et jusqu'à maintenant, ça continue. Donc, ils ont détruit l'Irak, et les Américains étaient tout à fait d'accord pour mettre l'Irak en partiel, donc en trois États. Et ils n'ont pas réussi à le réaliser tout à fait au début, mais maintenant, on voit l'aboutissement de ce plan. La Syrie, c'était le deuxième plan, et à travers ces deux, on va aller vers l'Égypte. Heureusement que la situation de l'Égypte n'est pas du tout pareille que ceux de grands pays, de grandes civilisations. L'Égypte, on trouve les chrétiens parmi les musulmans dans toutes les surfaces du pays. Il y a même des quartiers et des villes où les chrétiens sont majoritaires, mais jamais ils attaquent leurs compatriotes musulmans pour n'importe quelle raison. Ils ne le font pas et ils essayent de vivre en paix et en harmonie. Donc, l'Égypte est la troisième force régionale depuis Nasser jusqu'à Moubarak. Moubarak a complètement détruit petit à petit cette stratégie de la force de l'Égypte dans la région. Et avec la révolution et les frères musulmans, l'Égypte est pratiquement disparue de la carte des grandes puissances de la région. Et qui voulait remplacer? Donc l'Irak était déjà détruit, la Syrie, on l'a commencé, l'Égypte, on voulait y arriver.
Là, on peut dire que les États-Unis ont joué un rôle dans la promotion des frères musulmans en Égypte. Hein.
Cher Daniel, non, c'est depuis 1990, oui, que ça se discute sous table, l'arrivée des frères musulmans sous l'influence des Turcs. La Turquie qui proposait aux Américains que le Moyen-Orient doit changer de carte et de stratégie. L'islam, la population est 90% islamisée. Ils veulent un régime islamique. Et ça, seule force qui peut regrouper un peu et qui peut coopérer avec l'Occident, c'est la force des frères musulmans. Depuis 1928, ils sont bien organisés, donc ils ont mis le gâteau sur le plateau pour les Américains, ils ont cru. Ils ont marché main dans la main pour arriver à ce plan. Et évidemment, les révolutions arabes, le printemps arabe, ce qu'on appelle le printemps arabe, faisaient partie de ce plan. On commence par des petites révoltes, on change, on met d'autres personnes en place. Et donc, Moubarak ne voulait pas au départ de démantèlement de la région ni de l'Égypte. Il résistait un petit peu vers la fin de son règne contre les Américains. Le fait que le grand tort de Moubarak de vouloir mettre son fils donc à sa place. C'était comme l'histoire des royautés. Et là, les Américains avec les frères musulmans n'en voulaient pas. Et c'est là que le déclenchement 2006 pratiquement, c'était le début de la volonté de changer les choses en Égypte. 2006. Et donc, 2006, Moubarak est réélu pour la quatrième fois. Mais en 2006, on a créé des mouvements, des jeunes, entraînés par des forces américaines et compagnies en Égypte, et le mouvement Kefaya. C'est-à-dire, ça suffit. Ça suffit pour le régime Moubarak, sa famille et... son entourage des hommes d'affaires un peu véreux, un peu profiteurs sur le plan économique. Et donc, moi, je dis qu'à partir de 2006, la volonté d'échanger le monde arabe a commencé à partir de 2006. 1990, c'est le début d'élaboration d'un plan qui concerne carrément l'Égypte, l'Irak et la Syrie. Et on a commencé par la guerre du Koweït, la guerre de l'Irak, et guerre d'Afghanistan, et ensuite il fallait aller plus loin. Parce que les frères musulmans, ils étaient avides de pouvoir, ils voulaient arriver très vite. Voilà. Donc, quelle est la position des chrétiens en Égypte? Dans tout ça, ils posent un vrai problème à tout changement dans le pays. Pourquoi? Ils sont très nombreux.
C'est à peu près au moins 10% de la population, on peut dire.
C'est plus que 10%, ça, on est resté depuis des années 10%, comme s'il n'y a pas de croissance dans les familles chrétiennes d'Égypte. Hein. Non, il y a de la croissance. Et heureusement que l'Église détient des statistiques sérieuses et réelles, hein, à partir de naissance jusqu'à la mort et les décès. Donc, des sources sûres de l'Église, on parlait minimum de 15% des chrétiens en Égypte. Et ils sont repartis partout. Il y a même des quartiers comme Choubra au Caire, il y a des gouvernorats comme Assyut, où les chrétiens ils sont très riches et très puissants. Et s'ils voulaient vraiment dominer la région d'Assyut, ils sont capables. Mais ils n'en veulent pas. L'Égypte n'a pas dans la tête d'avoir un État où être séparé. Comme ça a été dit plusieurs fois dans l'histoire.
Hein. Égyptiens aussi. Voilà.
C'est eux, comme les Irakiens, sont les originaires de ce pays et ils aiment leur pays. Et ils sont capables de payer de leur vie et de leurs biens et de leurs enfants pour rester en Égypte. Et que l'Égypte vive, comme le disait le pape Tawadros récemment. Bien.
Donc le pape, c'est le pape de l'Église copte orthodoxe d'Égypte. Voilà. Personne qui, moi, me fait une très bonne impression. Hein. Très, très bonne impression.
Très bonne impression parce que...
T'es orthodoxe, mais très bonne impression pour moi.
Comme tu as dit au départ, en Égypte, il y a des initiatives l'esprit unitaire. Et c'est grâce à lui. C'est lui qui a commencé à... Dans le chaos du pays, il a voulu vraiment souder un petit peu l'Église catholique, protestante, et toute tendance confondue, okay, même
ce conseil des églises,
même les Assyro-Chaldéens, les Maronites, les Arméniens,
les Grecs, toutes les communautés,
toutes les communautés existantes en Égypte, et Dieu sait qu'il y en a de toutes sortes, hein, les unir ensemble et faire un bloc contre ce qui se passe pour l'éradication des chrétiens d'Orient. Et donc il s'agit pas simplement de chrétiens d'Égypte, mais c'est tous les chrétiens. Il faut vraiment, quand un chrétien, un Irakien pleure, son frère en Égypte, il doit pleurer. Et ainsi de suite dans tout le reste du Moyen-Orient.
C'est le principe de ce qu'on appelle le corps du Christ.
Le corps du Christ, voilà. Donc,
si la membrette atteint, tout le corps souffre.
On a formé en Égypte le conseil général de l'Église. Et ce n'est plus l'Église copte orthodoxe qui est majoritaire, qui doit dominer comme dans le passé. Mais vraiment, il l'a fait sous forme de présidence tournante comme l'Europe. Tous les 6 mois, un chef d'une église, communauté dirige ce conseil. Et ça marche très bien. Donc, jusqu'à l'élaboration de la constitution, la nouvelle constitution de 2013. Donc, elle a imposé qu'il y ait un catholique, un protestant et un orthodoxe dans la commission qui a élaboré la constitution égyptienne. Et là, ils étaient unis sur pratiquement tout. Tous les articles de la constitution, ils les ont discutés avec des gens spécialisés. Notre évêque catholique, Mgr Antonis Aziz, il est docteur en droit. Et le pasteur protestant, elle était aussi docteur, pas peut-être en droit, mais enfin, c'est des gens qui réfléchissent et qui connaissent bien le droit. Voilà. Comment ils vivent, donc, les chrétiens, sous cette révolution? Ils ont souhaité la révolution de tout leur cœur. Ils ont participé, dès le début jusqu'à maintenant, au prix de leur vie. Parce que les chrétiens d'Égypte voulaient vraiment vivre côte à côte avec leurs compatriotes musulmans. Parce que dans l'ensemble, en Égypte, les musulmans ne sont pas tous bornés. C'est vrai, les frères musulmans, ils ont, ils ont travaillé sur une forte majorité pauvre des classes moyennes, hein, en les achetant, matériellement parlant, pour suivre un petit peu leur stratégie. Et donc, la carte qui peut gêner le pouvoir en Égypte depuis pratiquement 50 ans, c'est le confessionnalisme. Donc, toucher les chrétiens, ça va gêner l'État, et donc ça va se sentir en Occident et compagnie. Donc c'était une carte dans la main des frères musulmans jusqu'à maintenant. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Oui, Morsi est parti, mais les milices des frères musulmans sont toujours là. Les salafistes, ils sont un petit peu partout.
Ils sont dans l'appareil d'État et des gouvernorats et partout.
Exactement. Et pendant les deux ans de la révolution, ils ont pris pratiquement le pouvoir un peu partout dans l'administration. Alors, comment faire ?
Il faut du temps.
Il faut du temps. Mais il y a une volonté commune des Égyptiens musulmans et chrétiens d'en finir avec ça. Les chrétiens d'Égypte n'ont pas fini d'en souffrir, surtout dans les villages et dans les gouvernants des Miniens, surtout les Miniens. À Siout, c'est un peu mieux, parce que comme je disais tout à l'heure, les chrétiens sont
très nombreux,
très nombreux et assez forts. Souhag, c'est moyen, mais on y va maintenant vers le Sinaï, hein, donc les villes en frontière avec Israël, et dans le nord de l'Égypte. J'étais en Égypte le mois dernier, et donc j'ai visité le Caire, Alexandrie, Bourgeois, donc les grandes villes. Et c'est vrai que j'ai senti, j'étais là pendant les élections de Sisi, et j'étais quand même très heureux et très content de voir cette nouvelle situation entre les Égyptiens musulmans et chrétiens. Dans la rue, toute la nuit, danser, chanter, comme si quelque chose de perdu, retrouvé. Et tous unis contre les frères musulmans. Donc, ce changement de mentalité, petit soit-il, il est quand même très, très significatif, très important, que les musulmans eux-mêmes se rendent compte que l'islam, réclamé par les frères musulmans et des salafistes, eux, ils ne le veulent pas. Ils ne veulent plus. Ils veulent un islam moderne, adapté à la situation nouvelle, en vivant un peu avec les autres communautés. Bien. Actuellement, Daniel, vous me dites que les Coptes souffrent encore. Oui. Ce n'est pas fini. Tous les jours, on a des Coptes tués. On a des jeunes filles enlevées, mariées et islamisées par la force. Il y a des riches Coptes, soit l'enfant, soit le... Alors, on tape dans les hommes d'affaires, les médecins, les pharmaciens et les commerçants, les gros commerçants ou les hommes d'affaires qui ont de grosses sociétés. Maintenant, le but des frères musulmans, peut-être ils ont perdu beaucoup d'argent dans les événements derniers. Donc il faut qu'ils remplissent un peu leur caisse. Alors est-ce que l'Occident a changé ? Est-ce qu'il a fermé un peu le robinet des financements ? C'est possible. Mais alors, pour punir les Coptes à cause de leur participation dans la révolution, dès le début jusqu'à l'évacuation de Morsi, il faut qu'ils payent. Ils payent par les rançons. Donc tous les jours, on a des nombres... c'est terrible. Et qu'est-ce qu'on peut demander au pouvoir ? Eh bien, le pouvoir, elle est occupée à stabiliser ses assises, déjà, négocier un petit peu avec l'Occident, avec l'Amérique, avec la Chine, avec la Russie, pour stabiliser un petit peu la situation intérieure. Donc, il y a le programme économique qui, pour le président Sisi, est primordial.
C'est fondamental.
la sécurité et l'économique. S'il arrive à stabiliser un peu la sécurité intérieure et donner un peu de confiance aux hommes d'affaires égyptiens pour investir et étrangers, relancer le tourisme, les gens qui étaient financés ou aidés par les frères musulmans, ils cessent de l'être.
Bien sûr.
Ils cessent de l'être. Donc ça, c'est son programme. Mais on dit, les Coptes sont toujours attaqués et agressés et le pouvoir ne fait rien. Effectivement. Il ne peut pas faire grand-chose. Et puisque ces attaques actuellement ne sont pas globalisées. C'est vraiment des cas par cas. Dans les villages, dans des quartiers au Caire. Maintenant, on a les quartiers nord-est du Caire, donc Matareya, Ain Shams, pas loin de l'aéroport d'ailleurs. Et là, il y a des majorités populaires islamisées encore et qui attaquent et qui font comme en Irak, mais pas en grande échelle. Donc deux familles, quatre familles, une dizaine de familles, et on exige qu'ils partent.
Et encore, en Égypte, il y a encore un pouvoir central quand même.
Il y a un pouvoir central et il y a quand même...
Al-Sisi, c'est pas un enfant de cœur.
Il y a l'État, mais ce qui me gêne un petit peu, c'est que le pouvoir policier négocie, il rassemble les deux familles, les deux belligérants.
Des trucs de concertation, ça c'est...
Et voilà, et on doit se réconcilier
ça marche jamais.
Comme dans le passé.
Oui, mais ça marche pas.
Alors le droit de l'homme, ça on le met à côté, et toujours le copte est toujours lésé, même s'il n'a pas tort. Hein. On lui dit non, mais pour la paix, pour la tranquillité, acceptez. Et finalement, la police, des fois, exige que les coptes quittent leur maison. C'est ça qui est scandaleux. C'est ça qui est scandaleux. Donc, des cas comme ça passent tous les jours. C'est désolant pour le nouveau pouvoir. Et effectivement, depuis cette révolution, les associations coptes, avec de partenaires musulmans, ne cessent de réclamer et de contester et d'écrire, et des fois de manifester aussi leur mécontentement contre le comportement de l'État dans ces domaines.
Alors, il faut laisser, comme disait l'autre, il faut laisser du temps au temps. Il faut quand même... Là, Sissi a été élu il y a quelques mois, il faut quand même lui laisser un petit peu de temps. Il faut... Moi,
deux
je
mois.
Crois...
Les 24 mois, bon. Juin. Oui.
Alors, ça, c'est rien du tout. Il faut quand même comprendre que il y a eu quand même... on dit le diable porte pierre. Hein, c'est un adage. Et l'année... des frères musulmans au pouvoir, c'est le plus grand répulsif que même les musulmans modérés, etc., ont pu prendre pour les frères musulmans. Je pense, on l'a vu dans les résultats, c'est
ah
pas
oui,
tant,
ça.
Parce que si on met les résultats qu'a eu Morsi aux élections et Al-Sisi, on voit très bien que il y a eu un rejet d'une grande partie de la population musulmane.
On dit même heureusement qu'ils sont venus au pouvoir.
Heureusement,
parce que là, les gens jugent sur la réalité.
Voilà, nous, on dit ça aussi, nous, les socialistes. Par contre, on les a pour 5 ans avec le truc. Alors, avec Morsi, un an, ça a été réglé. Hein.
Peut-être qu'on va arriver à l'aider.
Coup d'État, boum. Plus de personnes dans la rue qu'on n'a jamais vu dans toute l'histoire des manifestations de l'humanité. Je ne sais pas combien de personnes sont descendues. Des millions et des millions et des millions de personnes sont descendues dans la rue en Égypte. Et ça a été réglé. Alors après, ils se sont vengés. Ils ont brûlé 80 églises, lieux de culte chrétiens, etc. Bon, ils se sont un peu... ils se sont dérouillés les jambes au mois d'août de l'année dernière. Il y a eu les 3 jours...
C'était 14, 15, 16, 17.
Ouais, ça a été dur quand même. Hein.
103 institutions et églises qui ont été détruites.
Ce que vous nous dites, Sobhi Gress, c'est assez encourageant. Il faut observer la chose que l'Égypte est un grand pays. C'est un grand pays. Hein. C'est quoi, 90 millions d'habitants maintenant à peu près, non?
Juste. Avec les Égyptiens à l'étranger.
Avec l'étranger, 90 millions, c'est quand même...
Il y a 84 à l'intérieur.
Voilà, c'est quand même, c'est pas mal, c'est un grand pays. Quel est le problème? C'est pas un pays où les fruits poussent en abondance, hein, c'est quand même compliqué. Mais enfin, ça fait pas... Ça date quand même de plusieurs milliers d'années, ça, c'est pas nous. C'était aussi un peu désertique.
Même temps que l'Irak.
Voilà, bon.
Les deux.
Voilà.
Alors, il y a encore...
Une minute.
J'en rajoute quelque chose. Donc, Solidarité Copte Internationale travaille depuis plusieurs années avec toutes les associations des chrétiens d'Orient. Donc dans une association qui s'appelle Meshrek. Et on a commencé par...
Comment ça s'écrit ça, Meshrek?
Meshrek, M-I-C-H-R-E-C. Middle East Christian Community.
Ah voilà, d'accord.
Voilà, il y a tout le monde, des Assyro-Chaldéens, dans toutes leurs... Et ils ont leur siège à Washington.
D'accord.
Et donc récemment, avec notre cinquième congrès copte, il y avait toutes les composantes de Meshrek qui ont participé donc
très bien.
Au congrès américain. Ils ont tous appelé pour sauver les chrétiens d'Orient. Très et bien. Ça continue.
Alors, juste, donc, il nous reste deux minutes, on continue, on aura l'occasion de reparler de tout ça, parce que de toute façon, on va avoir l'occasion de reparler de tous ces problèmes dans les semaines et les mois et les années qui viennent. Alors, un auditeur au sujet du nouveau califat de Bagdad, tout le monde a oublié que le maréchal Lyautey souhaitait la réhabilitation d'un califat, ce qui permettrait d'avoir un interlocuteur. Bon, bah, c'est maréchal Lyautey, donc voilà. Que fait le pape François contre cette pourriture islamique? J'aurais dit islamiste, monsieur l'auditeur. Et pour défendre les chrétiens, bah, je crois que le pape fait ce qu'il peut. Ah, et oui. J'aimerais pas être à sa place. Je vous le dis sincèrement, c'est un boulot que j'aimerais pas faire. Mineur de fond et pape, actuellement, j'aimerais pas faire. Ça, c'est trop difficile. Ça, aucune de mes possibilités, j'ai pas faire. Bon. Un autre auditeur, le programme israélien depuis 30 ans consiste à détruire tous les pays musulmans autour d'Israël. Le morcellement actuel est une grande réussite pour l'État qui a toujours rendu publiques ses intentions. Ouais, il y a peut-être du vrai dans ce que dit notre auditeur. Ça mériterait quand même d'être un tout petit peu précisé. Mais c'est pas Israël qui est le premier destructeur des pays musulmans quand même. Hein. Faut voir. Mais c'est plus compliqué que ça. Ce que disait tout à l'heure notre ami Sobigres sur le rôle de la Turquie, c'est vrai. Hein. La Turquie, et c'est pas nouveau. Hein. La Turquie joue un rôle très 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 spécial. Et actuellement, dans le désengage de la Syrie et de l'Irak, il est évident que la Turquie joue un grand rôle. Grand, grand rôle. Voilà. Bon,
Israël n'est pas très étrange. Elle joue son rôle, elle joue sa sécurité.
Chacun joue son rôle
et
sa sécurité.
On peut dire qu'ils ont... Tout ce qu'on peut diviser est bien pour soi.
Ils ont quand même la main lourde, quand même, parfois. Ouais. Mais enfin, bon, de l'autre côté, il sera aussi quand même beaucoup de fusées de l'autre côté. Donc, il faut quand même... Eh bien, écoutez, il me reste
là, c'est pas eux qui ont commencé.
Mais ça, le problème, c'est la question... Qui a commencé, c'est la question de l'œuf et de la poule. On ne saura jamais. J'ai une petite idée là-dessus, mais je ne vais pas... Il me reste 30 secondes, je ne développe pas maintenant. Donc, merci beaucoup, Sobigres, pour toutes ces informations. Vous savez que vous êtes ici chez vous, revenez quand vous voulez, quand il y a du nouveau, vous n'hésitez pas. Merci Madeleine Gallap et Anthony Gallap pour votre présence et toutes les explications que vous avez données. On se retrouvera de toute façon dimanche à 17h devant Notre-Dame de Paris, sur l'Esplanade, et puis ensuite, pour ceux qui le souhaitent, moi j'aurais déjà eu la messe, donc alors, je vous quitterai après. Et il y aura donc une messe à 18h30.
Oui, et à 17h avec des bougies et la lettre Noun.
Et la lettre Noun, oui, on va imprimer tout ça sur nos trucs là. Ça marche parfaitement. Je crois qu'ils ont fait une erreur stratégique, les camarades. Eh bien, merci à tous. On se retrouve dans une petite minute après notre pause habituelle technique.